À tous, ou peut-être je devrais dire madame, messieurs les jurys, vous écoutez Ouvre-la, une très bonne émission. Comme d'habitude, j'anime l'émission en compagnie de mon père. Salut.
Bonjour.
On est en direct des studios de Radio Cause Commune. Vous pouvez nous écouter en FM 93.1 ou en DAB ou sur le site de la radio cause-commune.fm. En podcast.
Et oui, il y a des podcasts. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi bien cette émission ?
Cette émission, elle est bien non seulement parce que c'est moi qui Solal qui l'anime, mais aussi parce que et surtout parce que c'est un magazine d'actualité fait par un jeune et j'espère pour des jeunes et tout le reste du monde. Bien sûr, on exclut personne. Comme d'habitude, trois sujets que j'ai choisis qui s'inspirent aujourd'hui beaucoup de ce qui m'arrive en ce moment. Alors en effet, hein, je pense que vous n'avez pas pu vraiment passer à côté, on commence à en parler, y compris dans les médias. Le bac, les épreuves du bac approchent. Pour les séries professionnelles, c'était déjà, elles sont déjà passées. C'était pendant la grosse vague de chaleur. On est en solidarité avec eux. Mais pour les séries générales et technologiques, donc le gros des terminales, c'est les 15, 16 et 17 juin, c'est-à-dire lundi, mardi et mercredi prochain.
Oh bah tu tousses, alors ça a fait une interruption, désolé.
Donc on va être à fond sur ce sujet, mais avant ça, je vais commencer par un premier sujet qui pareil touche tout autant les terminales, mais on va le voir pas que. Ce sujet c'est Parcoursup, j'en ai déjà parlé, c'est la plateforme pour les vœux pour rentrer sur dans les études supérieures. On va aborder le début de la phase d'admission qui a commencé il y a quelques jours, c'était le 2 juin. Ensuite, on va parler plus du bac, du dernier aspect que j'ai pas abordé, le grand oral. Donc je vais un peu présenter l'épreuve, tout ce qu'il y a autour de ça. Et je vais avoir l'opportunité géniale de passer un oral blanc devant des milliers d'auditeurs. Je vais pouvoir vous, j'allais dire vous interpréter, je vais pouvoir vous faire écouter mon sujet de SES.
Le vrai sujet de SES que t'as préparé pour le bac.
Pour le grand oral, ouais.
Ah bah on a hâte d'écouter ça alors.
Voilà. Mais du coup, avant ça, premier sujet, Parcoursup. Alors Parcoursup, on en a déjà pas mal parlé. Parcoursup, c'est la plateforme informatique qui est utilisée aujourd'hui par les terminales et les gens qui veulent rentrer sur leurs premières années de supérieur pour s'inscrire concrètement dans des facs. Alors comment ça marche concrètement, j'en ai déjà un peu parlé, ça fonctionne avec un système de vœux. Vous faites jusqu'à 10 vœux et 20 sous-vœux. Pour plus de précision, je vous invite à aller écouter les podcasts des émissions sur desquelles on a parlé. Mais bon, ça fonctionne avec ce système de vœux. Vous faites 10 à 20 vœux de fac. Et à partir de là, je suis un peu malade, désolé. À partir de là, vous allez recevoir des résultats. soit vous allez être accepté, tout ça. Enfin, je vais vous expliquer plus en détail comment
alors,
ça marche.
Alors, vas-y, on y va. Là, on rentre dans le... T'es plus en train de présenter le sujet, là. Il faut que tu rentres dans le sujet, parce que c'est flou pour beaucoup. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Parcoursup, tout le process, là, il est terminé aujourd'hui.
Alors, terminé, pas vraiment. En tout cas,
tous les élèves ont fait leurs vœux. Ils ont dit ce qu'ils souhaitaient faire l'année prochaine. Ils ont envoyé, le lycée a envoyé tous les résultats des deux premiers trimestres de terminale et de l'année de première.
Alors, pour les terminales, il me semble que c'est au niveau général. Maintenant, ça fonctionne par semestre. Donc, il n'y a que le premier semestre qui est envoyé.
OK.
Et donc, les
écoles ont reçu tous vos vœux.
Chaque école pour laquelle on a fait un vœu a reçu notre dossier. Et du coup, à partir de là, comment ça marche? Il y a une hiérarchisation des dossiers qui est faite. Alors ça, c'est un peu mystérieux parce qu'on n'envoie pas seulement nos notes, on envoie aussi nos lettres de motivation et quelque chose qui s'appelle la fiche avenir qui est remplie par chacun de nos professeurs qui va en fait donner notre avis, donner son avis sur les vœux qu'on a faits.
Ok.
Donc, à partir de là, les facs, elles hiérarchisent. Et à partir du 2 juin à 17h, elles ont commencé à envoyer... elles ont envoyé des réponses à tous les lycéens, et pas que d'ailleurs. Il y a aussi des personnes qui font de la réorientation, qui du coup ont fait ces vœux sur Parcoursup. Donc... à partir de là, les lycéens, les gens, ils commencent à recevoir des réponses qui peuvent être de 4 types. Soit un refus, l'école vous dit concrètement vous avez aucune chance ou vous avez pas le niveau pour venir dans notre licence, dans ce programme. Soit un vœu en nous disant oui, une acceptation. Concrètement, si vous le voulez, vous pouvez rejoindre notre école, on vous accepte. Il y a aussi un petit sous-vœu à ça qui c'est un oui mais, c'est-à-dire oui on vous accepte dans notre formation, mais par contre avant il va falloir que vous passiez une formation en plus de remise à niveau
d'accord.
En gros. Donc c'est un oui avec une condition imposée par...
Donc c'est pendant les vacances, ceux qui sont acceptés dans ces formations-là, ils vont devoir se mettre à niveau.
C'est soit pendant les vacances, soit la semaine avant la rentrée.
Ok.
Donc ça varie vraiment en fonction des formations. Ça varie en fonction des formations pour éviter d'avoir des élèves qui sont perdus en arrivant.
Donc alors on peut te dire oui, on peut te dire oui mais, on peut te dire quoi d'autre ?
On peut te dire non, du coup.
Ok, donc là c'est des réponses claires.
Voilà, et puis après il y a la réponse qui est celle qui a attendu la majorité des lycéens, c'est le vœu, la réponse en attente.
D'accord, donc sur tes 15 vœux, tu peux être en attente 15 fois.
15 fois, et d'ailleurs c'est ce qui arrive à plein de lycéens. C'est-à-dire que sur, c'est assez simple à comprendre, les facs hiérarchisent les étudiants, il y a, 300 places. Sur les 3000 qui ont fait le vœu, les 300 premiers, on leur envoie la réponse oui. Et après, les autres, ils reçoivent leur rang dans ceux qui restent. C'est-à-dire, si vous êtes premier de ceux qui restent, de ceux en attente, eh bien, si quelqu'un qui était dans les 300 premiers, donc qui ont été acceptés, va finalement faire autre chose, et paf, tout le monde de la liste remonte. Le premier reçoit un vœu accepté, le deuxième passe premier, etc. En plus de cette information de votre positionnement dans la liste d'attente, Parcoursup il vous fournit aussi une information qui est assez importante, la position du dernier admis de l'année dernière.
D'accord. Donc en gros, si t'es 150e, tu regardes et l'année dernière on a pris 35 élèves. C'est pas gagné-gagné quoi. Il y en a beaucoup qui sont devant toi.
Alors que si vous êtes 1000e, mais que l'année dernière le dernier élève qui a été accepté, il était 2000e.
Ouais, ok.
Là, on peut se dire, finalement, il suffit que j'attende un peu et effectivement, ça va, je vais avoir... ce sera positif.
Ouais.
Donc, c'est tout un jeu de calcul, en fait, qui est fait par les étudiants, surtout ceux qui sont
en attente. Comme tu as mis 15 vœux, forcément, dans les vœux que tu as mis, il y en a peut-être que tu souhaites avoir plus que d'autres. Et donc ensuite, tu te fais des nœuds dans le cerveau parce que tu te dis, ok, je suis pris dans un, mais je le voulais pas. Et par contre, je suis en liste d'attente sur celui que je voulais absolument. Donc, est-ce que je prends celui qu'on me donne ou est-ce que je prends un autre, etc.
Voilà. Ouais. Allez, du coup, c'est ça. Et à partir de là, et ben en fait, il y a un processus. Ça c'est déjà les informations juste que vous recevez quand vous vous connectez sur Parcoursup le 2 juin à 17h, quand les premiers résultats ont été postés.
Ah oui.
À partir de là, il y a d'autres choses qui se passent, et cette fois, c'est autour de l'élève de décider. Déjà, l'élève, il a une durée de temps limitée, c'est-à-dire qu'à partir du 2 juin, il y avait 3 jours, jusqu'au, il me semble, au 4 juin à 23h59.
Ouais, ça fait 48 heures, ça.
Ça fait, oui, c'est vrai, ça fait 48 heures, en fait. 48 heures, et ces 48 heures, vous devez obligatoirement donner des réponses aux vœux qu'ils vont accepter. Sinon, d'accord, c'est considéré comme refusé.
Ok, donc... Si jamais on t'a accepté à plusieurs trucs, ouais, ça je comprends en même temps. C'est parce que comme il y en a beaucoup qui sont en attente, ceux où on t'a accepté des trucs, bah faut que tu dises tout de suite si tu les prends ou pas.
Voilà. Mais il y a un calcul à faire sur ces réponses, c'est-à-dire qu'il y a 3 réponses possibles. Soit refuser, dire concrètement ce vœu, ok, vous m'avez accepté, en attendant, j'ai absolument pas envie de vous voir. Et.
Donc je refuse, ouais.
Je refuse. Soit. Dire oui. Dire je vais aller à cette formation et du coup je refuse tous les autres vœux que je sois en attente ou accepté. Et puis après il y a le oui mais, c'est-à-dire j'accepte cette formation, vous me gardez ma place en gros, je refuse tous les vœux qui m'ont accepté, mais par contre les vœux que j'ai en attente je les garde quand même.
Ok.
Et du coup ça laisse la possibilité, en gros le calcul à faire c'est je me garantis une place en fac. Mais par contre, si le vœu sur lequel je suis en attente, ou je suis pas vraiment sûr si je vais être accepté ou pas, mais qui m'intéresse plus, si finalement on accepte, je diverge et je vais sur ça.
D'accord.
Donc ça, c'était jusque-là. Et à partir du coup du 5 juin, après le 4 juin à 23h59, il y avait encore un autre calcul à faire. Il fallait que les élèves se mettent à hiérarchiser leurs vœux, à dire bah moi je veux plus sur les trucs qui sont sur lesquels ils sont en attente, dire moi je veux plus ça que ça, je veux plus ça que ça, etc.
D'accord.
Avec à chaque fois ce laps de temps donc qui était à la base de 48 heures pour répondre, et ben en fait il va commencer à se réduire, c'est-à-dire que là il est encore à 48 heures tous les deux jours, il y a ce travail à faire. Donc en fait en réalité il faut se connecter 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, et il va se réduire progressivement pour devenir un jour.
Donc des fois t'as 24 heures pour décider sur les nouveaux trucs auxquels on t'a, enfin sur les nouvelles formes, enfin pour te décider sur les formations pour lesquelles on t'a accepté ou pas.
C'est ça.
Ok. Ce qui donc veut dire... ceux qui le 2 juin, ceux qui le 2 juin ils sont acceptés à des trucs. Bon ben eux ça va, ils ont pas trop de nœuds à se faire dans la tête quoi.
C'est ça.
A priori ils prennent là où ils sont acceptés. Même si, bon, ils ont quand même fait 15 vœux par rapport aux centaines de formations qui sont proposées en France. Donc, a priori, c'est déjà des trucs qu'ils souhaitaient. Voilà. Et ensuite, au fur et à mesure que le temps avance, eh ben, c'est les listes d'attente diminuent.
C'est ça, et c'est un jeu de calcul, en fait, de savoir, surtout pour les bons élèves, c'est ça, pour les élèves qui ont déjà leur réponse le 2 juin, ça a été mon cas, moi j'ai eu...
on va en aller sur le résultat voilà. Après, tu
j'ai
vas nous dire.
Moi j'ai eu les facs que je voulais, dès le premier jour, on valide, et si on a la formation qu'on veut, on valide en refusant tous les autres, aussi un peu par solidarité pour les autres, en se disant, eux ils sont en liste d'attente, du coup, en me dégageant des listes d'attente, ça les fait remonter un peu.
Ouais. Et donc le stress, c'est d'être toujours en attente,
ça,
les jours passent et on se connecte une fois, deux fois.
La majorité des élèves qui sont en fait à des moyennes entre 9 et 14, eux en fait ils sont en attente sur la majorité de leur liste parce qu'ils sont, et du coup il y a ce calcul à faire de toute façon, si je suis 10 millième et que le dernier accepté l'année dernière il était à 3000, on peut assez rapidement se dire bon bah il y a très 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 peu de chances que je sois accepté
cette
année.
J'ai cette formation là,
voilà. Mais par contre, sur des choses qui sont pas sûres ou sur des plus petites formations, parce qu'il y a que les licences en réalité ou les grandes écoles où il y a 700 places. Quand on est sur des BUT où c'est des places parfois à 30, là tout de suite c'est beaucoup plus de calcul et du coup c'est beaucoup plus stressant avec ce truc de permanent, de en plus de devoir réviser pour le bac, il faut aller se connecter très régulièrement sur Parcoursup pour aller voir où est-ce que je suis remonté, etc.
Et ben je pense qu'on comprend mieux. Et maintenant on a envie de savoir effectivement pour toi. Quels ont été les résultats ? Parcoursup.
Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Le 2 juin, je me suis connecté à 17h, comme un peu tout le monde. Le site, il a ramé pour tout le monde parce que tout le monde s'est connecté en même temps.
Évidemment.
Et moi, j'ai eu de la chance, j'ai été accepté. Alors, déjà, dans la formation qui m'intéressait, moi, c'est un truc dans une école qui s'appelle Paris Sciences Lettres, une formation qui s'appelle Sciences pour un monde durable. C'est une licence. Et puis même outre ça, enfin moi j'avais été accepté à Nanterre et à la Sorbonne en droit, etc. Donc moi j'ai eu cette chance, on va dire, d'être accepté là où je voulais.
Ok, donc toi t'as fait partie du premier lot qui dès le 2 juin a eu du choix.
C'est
a pu choisir. Et donc t'as choisi sur quels critères?
Ce que les profs nous conseillaient, et à raison, c'est au moment où on rentre les vœux, donc c'est-à-dire c'était en mars, il me semble. Faut déjà hiérarchiser dans sa tête, se dire ça m'intéresse plus que ça. Enfin, et on le fait automatiquement. Il y a les vœux qu'on met parce que au cas où on n'ait rien d'autre, on appelle ça des vœux de secours un peu.
Ouais, donc on se les met en 13, 14, 15e.
C'est ça. Ensuite, il n'y a pas de hiérarchisation directement à faire. Donc, c'est une liste mentale, quoi.
D'accord.
Et puis après, on a en général une ou deux formations où on se dit « Ah, je la veux absolument et si j'y vais, j'accepte direct. » C'était mon cas pour la formation que j'ai acceptée. C'était le truc où vraiment je m'étais dit « Si je l'ai, j'y vais. » Et puis après, y a d'autres formations qu'on met soit en n'étant pas sûr de les avoir, soit en n'étant pas dérangé par le fait d'y aller. Moi, aller à la Sorbonne ou à Nanterre, ça m'aurait pas du tout dérangé, par exemple.
Tu nous avais dit dans l'émission précédente que tu étais, que tu avais fait un examen pour une grande école. C'était quelle école déjà et quel a été le résultat?
Alors moi, c'était les instituts d'études politiques du coup de Sciences Po, pas tous sauf celui de Paris. Du coup pour ça, alors j'ai été refusé. D'ailleurs, truc assez marrant, il me semble que les IEP c'est 8 écoles. Mais ça compte comme un seul vœu sur Parcoursup. Par contre, chaque école vous accepte ou vous refuse individuellement. Ce qui fait que quand j'ai ouvert Parcoursup, on vous dit vous avez tant de vœux acceptés, tant de vœux en attente, tant de vœux refusés. Et j'avais genre 15 vœux refusés. Alors que j'avais fait 15 vœux en tout.
Oh, ça fait flipper voilà. Pour le coup.
Bah, heureusement qu'ils mettent les vœux acceptés. J'avais 7 vœux acceptés. Donc heureusement qu'ils avaient mis les vœux acceptés. D'accord. Avant. Parce que c'est vrai que j'ouvre le truc, je vois 15 vœux refusés. Ça me fait pas mal marrer. Mais non, c'est ça, concrètement, j'ai été refusé, il me semble dans tous, peut-être que je sais plus si j'étais accepté dans un ou pas, parce que quoi qu'il arrive, ils acceptent que dans un seul, ils acceptent pas dans plusieurs en même temps.
D'accord.
Voilà, donc, voilà. Voilà.
Donc t'es content de ton, en tout cas, de ce qui t'est arrivé?
Moi, pour le coup, je suis très satisfait. Après, moi, je suis satisfait à titre personnel. Ensuite, quand je vois des amis autour de moi qui n'ont pas eu cette chance, soit parce qu'ils ont demandé des choses beaucoup trop sélectives, ou juste que c'est des élèves normaux, en fait, qui font les mêmes vœux que tout le monde et qui, du coup, doivent se battre avec un peu la France entière, quoi. C'est sûr que c'est un peu triste, soit d'avoir des amis qui se résignent et qui se disent bon, cette formation que j'ai mis en me disant c'est au cas où, c'est elle que je dois accepter, et ça m'intéresse pas, et c'est très probable que l'année prochaine je refasse une année autre part, parce que c'est un truc dont on a un peu parlé à un moment, mais il y a 40% de réorientation en première année d'études supérieures en France.
Ça a toujours été
ça a toujours été le cas.
Je me souviens de reportages très très anciens avant que Chouanet, qui était rediffusé, etc., qui disait que les jeunes se réorientent. C'est assez bizarre cette idée que à la sortie du lycée, alors que tu sais juste faire des maths et du français, que tu vas choisir et puis que ça te plaira de
c'est très compréhensible.
Travailler dans tel ou tel domaine.
Le truc, c'est que pour ces gens-là, déjà Parcoursup met un espèce de malus, à la fois de base pour les gens qui se réorientent, mais en plus, souvent quand on se réoriente, c'est qu'on n'a pas eu une super bonne année. Et du coup, vu que ces résultats-là comptent pour la réorientation, c'est un malus en plus, en fait.
Les résultats de première année,
d'études supérieures, quand on fait Parcoursup.
Tu t'inscris en biologie, finalement, ça te plaît pas, tu te réinscris en économie, tes notes de bio, elles comptent pour
Elles seront regardées par les facs, effectivement.
Ouais, alors que si ça avait fonctionné, tu te serais pas orienté.
C'est ça. Concrètement, donc ça marche si c'est juste un élève qui a réussi à passer l'année, mais juste ça l'intéressait pas. Sauf qu'en fait, il y a une belle partie des élèves où ça les intéresse pas et du coup ils arrêtent d'aller en cours. Parce qu'au bout d'un moment, c'est la fac, il y a aucune obligation d'y aller. Et du coup.
Oui, et puis quand tu t'aperçois que c'est vraiment pas ton truc, que tu t'es là un peu par hasard et que tu rames.
C'est ça, c'est-à-dire que des élèves bon qui sont déjà.
T'étais bon en bio au lycée, en terminale, donc tu t'es inscrit en fac de bio, puis c'est, en fin de compte, c'est pas du tout.
C'est ça, ou sinon,
parce que ce qu'on fait en
élèves...
bio, c'est un peu naze, hein, au lycée. Faut... Non, mais il faut le dire, par rapport à ce qu'on fait, à ce que c'est vraiment la biologie.
Et puis aussi, c'est des élèves qui, s'ils ont eu leur vœu de secours en terminale, vont se réorienter parce qu'ils voulaient juste pas faire ça de base. Enfin, ça augmente encore plus les inégalités qui sont déjà liées à Parcoursup, quoi. Donc c'est une autre critique qui est à faire de cette plateforme, d'où le fait qu'il y ait plein de gens qui veulent la supprimer, en fait.
Bah en tout cas que ça stresse beaucoup et qui s'en plaignent, et ça, on le comprend bien.
Voilà.
Et ben félicitations en tout cas pour avoir été pris APSL, Paris Sciences Lettres.
Merci. Et ben félicitations à tous les élèves qui sont dans ce moment-là Parcoursup, ne serait-ce que pour l'avoir traversé. Je propose qu'on s'écoute un peu de.
Avant ça, je vais juste rappeler que sur Cause Commune, on a une émission qui s'appelle Regard sur l'école. Dont le premier épisode était donc l'émission c'est le samedi de midi à 13h et le premier épisode de l'émission était consacré à Parcoursup et la troisième émission était consacrée à la troisième et à l'orientation aussi. Donc si jamais vous êtes concerné par l'orientation, si jamais vous avez des connaissances ou quoi qui le sont, voilà, vous pouvez aller écouter ces émissions, donc soit l'émission que t'as fait toi Solal sur Parcoursup, un des sujets c'était Parcoursup, ouais. Soit cette émission là Regard sur l'école qui moi m'a beaucoup intéressé, et surtout que ce sont des témoignages d'élèves.
Ah ouais, donc super très très dedans. OK, très voilà. Bien. Bah voilà, vous pouvez aller écouter ça, mais en attendant, nous on va écouter de la musique, on va écouter Blood and Butter de Caroline Polachek.
I know the mode is lethal. Say you wanna show me a place, the place is here, the here is inside you. I'm
Et voilà, c'était Blood and Butter de Caroline Polacek. Vous êtes toujours sur Radio Cause Commune en FM 93.1 ou en DAB ou sur le site de la radio cause-commune.fm en podcast.
En podcast, en rediff aussi. Voilà. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en rediffusion.
Exactement, vous nous écoutez Ouvre-la, une émission de jeunes, un espèce de magazine d'actualité du point de vue de la jeunesse. Aujourd'hui, deuxième sujet du coup, on vient de parler de Parcoursup, on va reprendre sur un sujet encore plus proche maintenant. On va parler épreuve de bac, on va parler de la seule épreuve de bac, il me semble, dont j'ai pas parlé. On va parler du grand oral.
Mais le grand oral, qu'est-ce que c'est, Solal ?
Alors, le grand oral, c'est une épreuve qui, me semble, existe depuis longtemps. Enfin, toi, t'en as fait un, je pense.
Moi ?
Ouais.
Moi ? Non, j'ai pas fait de grand oral, moi.
Il y avait pas d'oral à la fin du lycée
J'en ai pas... Non, je crois pas du tout. Non, non.
Ok.
J'ai, en BTS, j'ai présenté mon stage. Mais je crois que c'est la première fois, justement, que j'ai pris la parole pour un examen.
Ok.
Non, j'ai eu un oral d'anglais, je crois.
Très bien. Ah oui, ok, effectivement, c'est une nouveauté du bac de 2021, bah tiens.
Bah ouais, non, c'est quelque chose de tout nouveau, et okay. Donc c'est pour ça qu'on ne connaît pas, et qu'on aimerait bien que tu nous racontes.
Ok, bon bah c'est très intéressant. Alors, bon bah, pour présenter juste la nature de l'épreuve, le grand oral, c'est une épreuve, du coup, orale, de 20 minutes.
Quand tu dis oral, en insistant dessus, tu veux dire avec la bouche ?
Exactement, c'est une épreuve où on parle. Concrètement, c'est 20 minutes, 10 minutes d'exposé. L'élève arrive avec deux... Alors, comment ça se passe ? L'élève arrive avec deux sujets préparés, un sur chacune de ses spécialités, parce que vous savez, maintenant, les élèves ont deux spécialités, deux matières qu'ils ont choisies pour passer leur bac. Du coup, un sujet par spécialité, et c'est le jour même le jury qui décide sur quelle matière il va passer, sur lequel des deux sujets. Donc il passe son exposé de 10 minutes, et après il y a 10 autres minutes qui sont réservées à un entretien.
À des questions-réponses.
Exactement. Soit sur le sujet, soit sur des éléments de programme, donc de cours, qui sont reliés ou reliables au sujet.
Mmh.
Voilà. Concrètement, l'épreuve, elle est censée être reliable au programme, c'est-à-dire que si vous faites typiquement, je sais pas moi, des maths, eh ben, il faut que vous parliez de maths et que ce soit, il faut pouvoir se raccrocher à un élément du programme de mathématiques.
Oui, genre on peut pas faire son exposé sur Call of Duty.
Alors...
Call of Duty, c'est un jeu vidéo.
Oui, pas juste Call of Duty, mais par contre, il y a un camarade à moi qui a parlé de la manière dont les équations différentielles peuvent être sont utilisées par des algorithmes de jeux vidéo.
Oui, pour tout ce qui est déplacement, bien
voilà.
Sûr.
Ah
oui,
Donc, très concrètement, c'est pas très dur de relier ça à un sujet qui nous plaît dans certaines matières plus que d'autres, c'est-à-dire que bon, bah, dans les mathématiques, il faut souvent le tirer un peu loin. Dans la physique, c'est pour des sujets comme la physique, la SVT, c'est plus simple. Pour moi, typiquement, j'ai comme spécialité SES, sciences économiques et sociales. Concrètement, c'est pas très dur de le rattacher soit à des sujets de société qui du coup bah relèvent de la sociologie tout ça, soit à des phénomènes économiques. J'ai une amie qui explique comment on en est arrivé au crash boursier de 2008-2009 en se basant sur notamment la croissance, l'emprunt, tout ça.
Bah, c'est intéressant d'avoir tous ces exemples. Et donc, tu me dis qu'il faut deux sujets. Le premier, tu l'as choisi dans ta spécialité qui est SES. Et quelle est ta deuxième... donc, sciences économiques et sociales. Pardon, il y a beaucoup d'acronymes. Hein. Dès qu'on parle du lycée, etc., c'est assez chargé. Donc, sciences économiques et sociales. Le deuxième sujet, c'est sur quelle option ?
C'est du coup sur les mathématiques. Et là, du coup, j'ai choisi de faire un exposé sur l'infini. Comment les mathématiques nous permettent d'aborder l'infini. Donc on voit que c'est un peu plus contraint, c'est-à-dire que je parle pas d'un truc qui me passionne forcément. En mathématiques, c'est assez dur. C'est assez dur parce que bah on nous enseigne pas, on n'a pas beaucoup d'exemples concrets auxquels on peut se raccrocher dans nos cours, quoi.
Ah bah des trucs infinis dans la vie, oui, non, il y en a un peu beaucoup.
C'est ça.
Par certaines chaînes qui nous représentent l'infini par la profondeur de leurs bêtises, peut-être, de certaines chaînes de télé.
Voilà. Il y a beaucoup de questions autour de cette épreuve, enfin de la part des élèves, beaucoup de critiques en fait surtout, notamment sur la préparation. Concrètement, il n'y a aucune préparation qui est forcée de faire, comment dire ça ? Il y a les établissements n'ont aucune obligation de préparer leurs élèves au grand oral. Concrètement, ce qui est dit, c'est que les élèves doivent produire ça de manière...
Tu peux partir à la one again, quoi.
Ils doivent faire ça de manière autonome, normalement.
Ok, sans l'aide des profs.
Les professeurs ont quand même un rôle à jouer, c'est-à-dire que c'est eux qui reçoivent de la part de l'élève la question, le nom du sujet, entre guillemets, et c'est eux qui le valident ou pas. Donc, il y a quand même ce contrôle qui doit être fait pour un peu cadrer, mais officiellement, il y a en tout cas aucune obligation de le faire et il n'y a aucune heure donnée aux professeurs pour aider les élèves. Ce qui fait que pour préparer les élèves à ces épreuves, soit ils doivent le faire sur leur temps libre. Moi, typiquement, mon professeur de maths, il a fait ça, soit en restant, du coup, s'il finissait à 15h30, il restait jusqu'à 17h30 pour faire passer des élèves en oral blanc. Soit pendant les récréations.
Enfin, une récré, ça dure pas 45 minutes.
Non, mais ça dure 30 minutes chez nous. L'oral, il est censé durer 20 minutes. Mais bon, on fait pas forcément la partie... on peut faire passer deux, voire trois personnes pendant une récréation de 30 minutes.
Ouais, d'accord.
Donc, mais ça reste sur du temps où concrètement, les profs, ils font ça de leur bonne volonté au bout d'un moment. Surtout qu'en fait, ils ont pas que ça à faire, surtout en fin d'année. Et du coup, bah, ça créer des grosses inégalités entre les lycées qui déjà ont les moyens de payer leurs profs des heures de plus si c'est une possibilité, juste les établissements qui sont capables de finir le programme à la moitié de l'année et du coup d'avoir tout le reste de l'année pour faire autre chose, y compris préparer ce sujet de grand oral. Et concrètement, nous on l'a remarqué dans mon lycée, on a remarqué qu'on avait des profs qui étaient quand même vachement sympas de bien vouloir nous garder après les cours.
Est-ce que ça crée des tensions entre élèves, justement, certains élèves qui auraient peut-être l'impression qu'ils ne peuvent pas avancer suffisamment vite à cause des autres et que ça leur ça les empêche de travailler leur épreuve de grand oral?
Alors, sur la question du grand oral, non, ça c'est un peu extérieur, c'est juste que oui, il y a plein de premiers de la classe qui s'énervent quand un élève qui n'a pas compris pose une question et que du coup ça ne fait pas avancer le cours. Mais par solidarité, ça est assez rare au bout d'un moment parce que c'est quelque chose qui est admis au bout d'un moment. Enfin, et je sais que c'est peut-être pas le cas partout. En tout cas, moi, dans les classes dans lesquelles je suis, c'est pas un reproche qui est fait de trop retarder. Surtout que là, c'est bon, l'année est terminée. Concrètement, on n'a plus cours. On a fini le programme. Il y a le programme de SES, on l'a fini, par contre, à la dernière minute de la dernière heure de l'année.
D'accord.
Donc, c'était très drôle, le prof finit sa phrase, ça sonne. Donc, concrètement, on n'a pas le luxe d'avoir des heures en plus dédiées à la révision, etc. Enfin, cela dit, cette semaine, vu qu'il n'y a pas cours, le lycée organise ça. Donc, finalement, on l'a, mais on n'a pas le luxe de faire ça sur des heures de cours. En attendant, on arrive à conclure les chapitres. S'il y avait des séances dédiées au grand oral, ce serait probablement pas le cas, du coup. Et c'est vrai que ce manque de temps qui est dénoncé par les profs, oui, c'est là qu'il se reflète au bout d'un moment.
Profs qui, rappelons-le, ont 300 jours de congé par an.
Bien sûr, ça c'est selon Nicolas Sarkozy. En vrai, on s'en aperçoit bien. Même eux, ils sont très peinés quand ils doivent dire au bout d'un moment, je suis désolé, mais là il est 18h, je dois aller m'occuper de mes enfants. Je peux pas vous faire passer leur grand oral.
D'accord, toi, t'as eu des sessions où vous passiez les uns les autres, votre grand oral ont été organisés par chacun des profs de tes spécialités?
C'est ça. Ouais. Mon prof de mathématiques, du coup, organisait ça sur toutes les heures qu'il avait de libre. En fait, il a été vachement sympa.
Ok.
Mon prof de SES, au bout d'un moment, il a une famille pour le coup.
Mais t'as pu lui présenter quand même ton.
Bah moi j'ai pas oral. Moi j'ai pas pu passer en oral blanc.
D'accord.
J'ai pas voulu non plus parce que bah concrètement moi non seulement j'ai l'occasion de le passer en troisième sujet de cette émission
sur
aujourd'hui
sur Radio Cause Commune.
Sur Radio Cause Commune à des milliers de gens, donc moi ça va en fait, mais aussi parce que moi concrètement j'avais pas eu de problème à trouver le sujet sur lequel je voulais passer. J'avais déjà lu des livres sur le sujet, donc moi je partais déjà avec un avantage aussi.
D'accord.
Et c'est sûr que quand on est sur une épreuve qui se base un peu sur la culture générale et sur les intérêts et les goûts dans la matière des élèves. Très, très concrètement, bah, c'est aussi donner un avantage aux élèves qui, chez eux, si c'est des littéraires, ont des livres dans les mains depuis qu'ils sont tout petits. Les élèves qui viennent en cours et qui apprennent des choses, bah, ça va être un peu dur de leur demander de sortir totalement du programme pour aller chercher quelque chose d'intéressant.
Mmh.
Voilà. Ensuite, une autre critique qui est faite, c'est assez récent par les profs, depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, les 10 premières minutes, qui sont des minutes d'exposé, j'ai des profs qui nous disent, concrètement, on n'évalue plus les élèves là-dessus. On les évalue sur leur capacité à, délivrer, enfin, nous exposer leur texte, donc leur capacité orale, s'ils savent bien s'exprimer, etc. Mais après, sur le contenu, vu que c'est fait à la maison.
Il compte sur le fait que ça a été généré par. Enfin, t'as sous les yeux un document qui a été généré par ChatGPT et que tu vas faire ta présentation en t'appuyant là-dessus, quoi.
Concrètement, on arrive on n'arrive pas avec des notes. Concrètement, on doit refaire nos notes à la va-vite. On a 20 minutes pour refaire nos notes avant. Donc, on n'a pas quand même un dossier. Mais
d'accord.
Oui, effectivement. Mais je pense que ça a toujours été un peu le cas. C'est juste renformé.
Quand tu vas arriver pour le grand oral, l'épreuve du bac, t'auras ton stylo.
Mon stylo,
on te file des feuilles.
Et concrètement, le jury, alors c'est sur la composition du jury, le jury il est composé de deux profs,
ouais.
Un prof d'une de mes spécialités, concrètement si c'est un prof de maths, je passe sur mon sujet de maths, si c'est un prof de SES,
okay.
Je passe sur mon sujet de SES, et puis un prof qui s'appelle le jury naïf, c'est assez drôle, concrètement c'est un professeur qui n'est pas de la matière.
Faudra pas se moquer de lui pendant l'oral.
Voilà, donc ça peut être un prof, si je passe en maths, ça peut être un prof de n'importe quelle matière, d'histoire,
Il y a les profs de sport par exemple, hein,
par
qui
exemple.
Foutent rien toute l'année, pardon. Pardon, je me moque des profs, désolé.
Et concrètement, on est évalué par les deux, à la fois sur notre capacité du coup à rendre compréhensible un sujet qui est assez précis sur notre matière, donc qui peut pas être juste du cours récité, mais aussi qui doit être assez précis. Et concrètement, les profs aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est que l'évaluation, elle se fait à 90% sur la partie entretien, où concrètement, on va vous poser des questions, ne serait-ce que soit éclaircir un point. Soit réexpliquer de manière un peu différente un point de notre sujet pour voir si c'est on récite du ChatGPT ou juste si on récite un texte qu'on a trouvé sur Wikipédia, peu importe, ou si concrètement on a compris ce qu'on disait derrière.
Oui, d'accord.
Voilà.
Et c'est là-dessus qu'ils vont t'évaluer plus que sur la présentation. Ils ont peur que t'aies appris par cœur un plan.
C'est ça.
Trop carré, soit que t'as repris dans la littérature, soit effectivement tu t'es aidé des outils modernes pour réaliser.
C'était déjà le cas avant ChatGPT. Oui, on évalue plus sur l'entretien, savoir concrètement si t'as compris ce que tu fais. Parce que oui, c'est pas dur d'avoir un texte quasiment parfait. Ne serait-ce qu'en prenant le sujet de... C'est la première année, il y a deux personnes qui ont 20 sur 20, elles donnent leur texte à toutes les personnes l'année prochaine au bout d'un moment.
Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Mais
aussi,
oui.
C'est concrètement, moi je suis en contact avec des terminales et il y a
eu avec des premières années maintenant.
Des premières années, et il y a des gens qui sont un peu arrachés pour savoir qui allait reprendre le sujet qui a eu 20 sur 20 l'année dernière.
Ok.
C'est ça, pas créer de vraies tensions, mais c'est sûr que c'est pas très dur d'imaginer. C'est par logique. Et évidemment qu'on va aller apprendre des erreurs des années précédentes.
Ok, donc je comprends aussi que les profs, ils évaluent pas tant sur les 10 minutes de présentation.
Ouais, mais ils s'appuient dessus pour...
À part sur ton aisance à l'oral, parce que ça c'est important aussi, faut pas déconner. Quand un sujet que tu maîtrises pas, t'auras du mal à le présenter, même si t'as appris par cœur le...
Oui, mais cela dit, ça fait que si on a compris le sujet, même si on n'est pas hyper à l'aise à l'oral... au bout d'un moment, si on sait répondre aux questions, le jury peut aussi dire.
Aussi.
En attendant, ok, t'es un élève timide. en attendant ton sujet, ça se voit qu'il t'intéresse et on comprend, et tu sais très bien tout nous expliquer si on te pose des questions. Ça peut aussi être un 20 sur 20, quoi.
Eh ben écoute, le temps avance, si tu veux avoir du temps peut-être pour ton grand oral, pour passer ton grand oral à la radio, ce que je te propose c'est de passer un peu de musique.
C'est ça, du coup, petite pause, on va écouter Volphonie de Ezekiel.
Mais c'est pas de ton âge ça ?
Non, c'est un groupe que tu m'as fait découvrir d'ailleurs.
Je me disais que t'avais bon goût, non, c'est sont les goûts de ton père évidemment.
Voilà, c'était un petit morceau tranquille, Volphonie de Ezekiel. Vous êtes toujours sur Radio Cause Commune en FM 93.1 ou en DAB ou sur le site de la radio cause-commune.fm. Vous écoutez Ouvre-la, une émission de jeunes. Tout de suite, mon grand oral du coup de SES. Je ne vais pas vous spoiler, je vais commencer directement.
Eh ben c'est parti, on t'écoute.
Attention, c'est formel, hein. Mesdames, messieurs, les membres du jury, nous sortons tout juste d'une période d'élection, les municipales, et nous nous apprêtons à rentrer dans une autre, les présidentielles. Dans un pays qui base sa démocratie sur les urnes, comme la France, comprendre les mécanismes derrière le vote, c'est comprendre le pouvoir. Encore faut-il savoir expliquer le vote. De nombreux sociologues se sont attelés à la tâche, et ces 20 dernières années, un parti politique semble les retenir tant l'explication semble complexe. Ce parti, c'est le Front National, devenu Rassemblement National en 2018, un parti d'extrême droite avec des scores tels qu'ils porteront peut-être l'extrême droite au pouvoir, ce qui n'était pas arrivé depuis 1945. On s'interrogera ici selon une question très simple en apparence, comment expliquer le vote d'extrême droite en France ? Du coup, on verra trois explications différentes de ce vote. Une première uniquement géographique, une deuxième plus socio-démographique et une dernière qui se baserait sur une restructuration politique et médiatique notamment. Donc, la première explication, elle serait purement géographique. C'est la théorie du géographe Jacques Lévy, qui développe pendant les années 90, le gradient d'urbanité. En gros, Jacques Lévy, il explique que le vote FN, il est très faible au centre des agglomérations parce que c'est des lieux de diversité et de connexion internationale et que au fur et à mesure qu'on se qu'on s'écarterait des zones denses, qu'on irait dans à la campagne, tout ça, où il y a aussi moins de diversité, donc les zones périurbaines et urbaines et rurales, pardon. L'attachement aux identités locales et traditionnelles, il deviendrait plus fort et du coup le vote d'extrême droite, il s'expliquerait purement par ce couple à la fois de densité et de diversité. Plus on est dans un endroit dense et divers, moins on vote d'extrême droite. Plus on est dans un endroit faiblement dense et faiblement divers, plus on voterait d'extrême droite. Cette théorie, elle a de nombreux contre-exemples, surtout aujourd'hui, mais elle a été affinée et actualisée par d'autres géographes qui la réutilisent. Par exemple, Christophe Guilly, qui écrit en 2014 un livre qui s'appelle « Comment on a fracturé les classes populaires ». Selon lui, il y a un espèce de clivage entre une France qu'il appelle la France métropolitaine, qui serait une France gagnante de la mondialisation, qui en fait bénéficierait de l'exposition à l'international, à la diversité, et il y aurait un affrontement avec une France périurbaine qui contiendrait concrètement les perdants de la mondialisation, les gens qui ont perdu leurs emplois donc à cause des déplacements d'entreprises à l'international, et du coup qui se retrouveraient à la fois écartés des flux financiers, de l'emploi et puis plus généralement des richesses. Et ce serait cette France un peu oubliée. Et pour lui, il y a vraiment un clash en fait entre ces deux France. Là aussi, il y a beaucoup de critiques de cette théorie, notamment par d'autres géographes et par des sociologues. Il reproche à Christophe Guilly de montrer les campagnes françaises déjà comme très sombres, alors que ça a été montré que dans des campagnes où le mode de vie n'est pas subi, mais qu'il est choisi, donc quand on parle de gens qui sont allés habiter à la campagne, et là, le vote d'extrême droite, il diminue drastiquement, en réalité. Donc, il y a quand même une corrélation entre le vote et la position géographique, et ça, on le voit sur les cartes électorales, hein, ça se dessine un peu par région. Par contre, c'est pas forcément une causalité, c'est-à-dire que la géographie, c'est pas le seul facteur. Donc, il y a d'autres facteurs que les sociologues développent, on appelle les facteurs sociodémographiques, qui expliqueraient le vote d'extrême droite. Du coup, on va voir, dans cette deuxième partie, on va voir lesquels. Le premier et le plus évident sur les tables sociologiques, c'est le niveau de diplôme. Depuis la présidentielle de 88, où Jean-Marie Le Pen fait 15%, le vote Front National puis Rassemblement National, il est caractérisé par un niveau de diplôme bas. C'est pour ça qu'il attire majoritairement des ouvriers et des employés. Mais par contre, il attire aussi une part de cadres et une certaine partie de la bourgeoisie. Même si cette part de cadre souvent reste peu diplômée. Nona Meyer, qui est chercheuse au CNRS, elle en parlait en 2017 dans des entretiens avec Sciences Po notamment. Le Front National, il a deux bases électorales. Cette première base, du coup, peu diplômée, de gens un peu abandonnés par la mondialisation, mais aussi des intellectuels d'extrême droite qui sont souvent aussi ses premiers soutiens financiers. On pourrait parler de Pierre-Édouard Sterrin, par exemple. L'âge, c'est un autre facteur qui corrèle au vote, avec cependant un énorme changement en fait de l'effet de l'âge sur le vote ces 20 dernières années. En 2002, les jeunes, ils boycottent Jean-Marie Le Pen. Au premier tour, il fait que 7% alors qu'il en avait fait 18% sur la population générale, alors qu'en 2022, Marine Le Pen, elle fait 29% chez les 18-24 ans, donc c'est un score qui explose. Mais par contre, depuis toujours, le cœur du vote d'extrême droite, c'est les 35-60 ans. D'une part, parce que les jeunes, ils ont toujours cette réticence à l'extrême droite et ils vont souvent plus voter à gauche. Et que les plus de 60 ans, ils vont souvent rester sur un vote plus traditionnel, c'est-à-dire soit de la droite traditionnelle, soit ces dernières années sur les votes du centre avec Emmanuel Macron notamment. Sur l'effet du genre, il y avait un effet, mais qui a disparu, c'est-à-dire que ces 20 dernières années, il y a 20 ans, on observait, un gender gap. Un écart à la fois en termes de participation et en termes de pour qui voter les femmes par rapport aux hommes. On a vu cet effet, il a totalement été gommé ces 20 dernières années et le Rassemblement National en a grandement profité, c'est-à-dire que avant l'image du parti et les positions notamment de Jean-Marie Le Pen mais de tous les autres partis d'extrême droite étaient extrêmement hostiles envers les femmes et très réducteurs dans leur place dans la société. Et c'est un discours qui a été gommé, et l'arrivée d'une femme à la tête du parti, ça a aussi sûrement participé à ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun effet du genre sur le vote. Et finalement, un truc que je trouvais assez intéressant, c'est l'effet de la croyance ou de la non-croyance religieuse qui est un facteur du vote, notamment d'extrême droite, qui a beaucoup évolué. Pendant longtemps, l'extrême droite a repoussé le vote croyant des musulmans et des juifs de manière assez évidente, mais par contre aussi du vote catholique. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un attachement aux valeurs prônées par l'évangile, donc d'acceptation, etc., qui a été un repoussoir pendant longtemps, mais aujourd'hui cet effet-là il diminue avec le retour d'un catholicisme identitaire qui est revendiqué par le Rassemblement National, qui aujourd'hui attire un certain vote catholique. Du coup, on a vu que même s'il y avait un gros effet des variables sociodémographiques sur le vote, les effets ils s'étaient plus ou moins gommés au fur et à mesure des années, et puis surtout qu'ils n'expliquaient pas la prise en pouvoir du Rassemblement National et des partis d'extrême droite quand l'électorat peu diplômé, par exemple avant, et ouvrier, était très attaché au parti communiste français. Donc on va essayer d'aller chercher cette explication moins du côté des électeurs et plus du côté de la société. Premièrement, il faut voir du coup que le RN il a bénéficié d'une espèce de reconfiguration de l'offre politique ces 20 dernières années. C'est-à-dire, je viens d'en parler, le vote ouvrier qui était caractérisé par du coup ce niveau faible de diplôme qui était plutôt masculin, il a été récupéré par le Rassemblement National et les partis d'extrême droite à mesure que le Parti communiste a perdu en puissance depuis la chute de l'URSS en 90. Et en plus, l'arrivée d'Emmanuel Macron, elle a fait perdre en puissance la droite traditionnelle, ce qui a un peu divisé l'électorat de droite. Il n'y a pas de statistiques exactes, mais une partie rejoignant Emmanuel Macron, mais une partie un peu plus de droite, pour le coup, comme l'UDR ou certains partis, c'est certains membres des Républicains qui sont allés soit créer leur propre parti d'extrême droite, soit ont carrément rejoint le Rassemblement National.
Ça fait 10 minutes.
Ça fait 10 minutes. Ah, j'ai du retard.
Ouais, je crois.
Ah. Bon, je finis rapidement.
Tu veux conclure ? Oui, bien sûr.
Voilà, l'extrême droite, elle a normalisé ses idées à travers une exposition médiatique. Aujourd'hui, et aussi en modifiant ses messages, là où Jean-Marie Le Pen était un négationniste antisémite, c'est une motivation seconde au vote d'extrême droite qui aujourd'hui est caractérisée par son racisme. Ça, c'est Félicien Faury qui le dit. Cette normalisation dans les débats publics, elle est en partie due à un soutien médiatique fort. La part des médias privés, notamment financés par des milliardaires d'extrême droite, elle a énormément augmenté. Et c'est un énorme regain, c'est une énorme force de laquelle l'extrême droite tire ses votes. Et pour conclure, on a vu que l'extrême droite, le vote d'extrême droite, il avait une gamme d'explications qui sont tout un peu complémentaire, à la fois géographique, sociodémographique et relevant d'une recomposition politique et médiatique. Cependant, il y a quand même des paradoxes qu'on pourrait aborder en ouverture. Le vote d'extrême droite des femmes, il peut sembler un peu paradoxal. Et ça, il y a un très bon livre de Andrea Dworkin qui s'appelle Right Wing Woman qui en parle. Voilà. Il y a le générique qui sonne. Bon, ça, c'est ça qui est pratique avec le fait de faire un oral blanc.
Là, c'est un peu dense. C'est vrai. Et puis, t'as parlé vite.
J'ai parlé vite.
Mais moi, j'avais quand même, donc t'as cité Jacques Lévy, Christophe Guy et Nona Meyer. Attends-toi à des questions, je pense, pour savoir qui c'est, si t'es capable de les positionner.
Ouais.
Quel est leur point commun, peut-être. Et quand tu les cites, mais tu dis pas quel type de recherche ils font.
Bah, pourquoi à chaque fois j'ai dit Jacques Guy et... Christophe Guy et Jacques Lévy sont géographes et Nona Meyer elle est sociologue. Enfin, je le dis. Mais
Christophe Guy, ouais, tu l'as dit, Nona Meyer, je crois.
Ok.
Et t'as parlé du déplacement des emplois non urbains vers l'international. Ça porte un nom.
Oui, la délocalisation. Mais j'ai perdu.
La désindustrialisation.
La désindustrialisation aussi. Ouais, j'ai perdu le mot sur le moment.
Délocalisation des emplois, ça c'est pas grave, t'as trouvé un synonyme, mais je pense qu'à ce moment-là, il faut parler de désindustrialisation quand même.
C'est ça.
Pareil, tu parles de l'impact de la croyance religieuse sur le vote FM, il faudrait peut-être que tu puisses citer une source.
Ah, ça c'est juste les enquêtes après les élections, c'est fait par c'est concrètement, enfin, mais oui, c'est...
Autant il y en a où tu cites des auteurs et tu dis que ça provient d'études, et puis là, ces chiffres-là...
Pour le coup, ils viennent du gouvernement après les élections.
Ouais, faut juste le dire.
Voilà, mais c'est, oui, effectivement, mais ça peut être des questions qui peuvent m'être posées, quoi, ok.
Voilà.
Très bien. Bon,
moi, je te dis merde pour ton grand oral.
C'est ça, retaper, du coup, le raccourcir.
Sachant que là, t'avais quand même tes notes sous les yeux.
J'avais mes notes sous les yeux et j'ai beaucoup lu.
T'avais l'heure sous les yeux. Je sais pas si t'auras le droit d'avoir une montre sur toi pendant le grand oral.
Si, j'aurais le droit.
Ok.
Mais c'est vrai. Alors pour le coup, j'avais pas vu quand j'ai commencé, donc j'avais pas l'heure sous les yeux en plus.
En parlant d'heure, il te reste 1:30 pour finir cette émission.
Merci Radio Cause Commune du coup de nous diffuser. C'est peut-être la dernière émission de l'année scolaire, mais quoi qu'il arrive, on reprend peut-être avec un nouveau format.
Et puis un truc de ouf, c'est que jusque-là c'était l'émission d'un lycéen et maintenant tu seras plus lycéen.
C'est ça, donc on a de grands changements à venir. Du coup, on se retrouve en septembre. C'était Ouvre-la sur Radio Cause Commune 93.1.
Si vous voulez nous rencontrer, on fait un squat tous les premiers vendredis du mois. Donc le prochain, ce sera début juillet. Si vous écoutez une rediffusion, si vous écoutez un podcast, que vous n'êtes pas début juillet, à part en août, tous les premiers vendredis du mois, on fait un squat à la radio où on rencontre les auditeurs, on échange avec vous. Et c'est rue Bernard Dimet dans le 18e à Paris, dans les locaux de la radio. Et on vous présente les studios et vous rencontrez les gens qui parlent dans le poste.
Voilà. Allez.
Au revoir Solal.